Super, alors bonjour à tous, hein, si j'ai pas salué tout le monde. Vous avez les salutations de l'église de Douai également. Voilà, je vous les transmets. Alors ce matin, j'avais à cœur de vous raconter une histoire. Une histoire que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, que je voulais revisiter avec vous. Et donc, je sais pas si ça vous parle. Je vais vous emmener avec moi en voyage. On est un millénaire avant la venue de Jésus sur la terre. Donc 10 siècles avant. Est-ce que vous situez à peu près? Est-ce que vous savez quels personnages interviennent à ce moment dans le peuple d'Israël pour le conduire? Je vous donne un indice supplémentaire. Il s'agit du dernier juge du peuple d'Israël. Alors... c'est le dernier qui sera juge et qui est aussi à la fois prophète, qui va délivrer le peuple de Dieu de ses ennemis plusieurs fois de façon extraordinaire en faisant appel à Dieu. Et il s'agit de Samuel. Alors, il y en a qui avaient deviné. Bravo. Faut oser dire, hein. Faut participer. Hein. Moi, je vous appelle à participer là ce matin. Alors, et... Samuel était donc le dernier juge du peuple d'Israël, avant de laisser la place au roi. D'accord, c'est lui qui va instituer le premier roi du peuple d'Israël. Et ce premier roi s'appelait... je suis sûr qu'il y en a qui ont la réponse. Saül, exactement. Saül. Saül qui était plutôt un bon ou un mauvais roi. Plutôt moyen. En fait, on peut dire de lui, si on résume sa vie, que c'était plutôt un roi selon la chair, selon le cœur des hommes. Et on voit que vers la fin de la vie de Samuel, quand il commence tout doucement à vieillir, Dieu va lui parler et va dire « Écoute, moi je rejette la royauté de Saül, je rejette son règne parce qu'il ne veut pas m'obéir, il en fait qu'à sa tête. Je me suis choisi un homme qui est selon mon cœur. » Et cet homme s'appelle David, exactement. Et alors, à l'époque, vous pouvez retrouver cette histoire dans 1 Samuel chapitre 16. Dieu va ordonner à Samuel d'aller oindre David comme roi. Et quel âge a David à peu près à ce moment-là? Il est plutôt jeune ou plutôt...
Il est très jeune.
Il est très jeune, hein. On estime qu'il avait à peu près une quinzaine d'années, quoi. Donc un adolescent. Et en fait, Samuel va aller oindre David, mais peut-être David ne comprend pas lui-même ce qui lui arrive, il ne réalise pas encore. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe d'important à ce moment-là où Samuel va oindre David avec sa corne d'huile? Saül avait autrefois l'esprit de l'Éternel, mais l'esprit de l'Éternel lui a été retiré et Dieu va le choisir de le donner à David pour qu'il règne sur son peuple. Mais... à ce moment-là, Saül n'est pas encore est un roi déchu dans le monde spirituel, mais il est encore là en tant que roi terrestre. D'accord, c'est encore lui qui règne sur Israël. Et donc c'est lui qui continue de mener les combats pour le peuple, de diriger le peuple. Mais il y a déjà un remplaçant. Et donc ces deux hommes vont devoir cohabiter tout un temps avant que David puisse prendre les pleins pouvoirs. Et Dieu va se servir du temps de cette cohabitation pour vraiment former son roi tel qu'il le veut, pour l'amener à faire les œuvres qu'il a préparées pour lui. Et ce matin, on va prendre un épisode qui est assez célèbre. Je pense que vous connaissez, vous avez déjà tous entendu parler de cette histoire où David va aller affronter un homme un petit peu plus grand que lui qui s'appelait Goliath. Ok ? Alors, on se situe dans 1 Samuel au chapitre 17. Je ne vais pas lire tout le chapitre parce que ce serait trop long, mais vous pouvez suivre dans vos Bibles, si vous voulez, le récit. Et ce matin, donc, on va parler de combat spirituel et on va parler de, finalement, cette histoire. Mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Comment est-ce qu'avec cette histoire, je peux m'en servir pour rendre un culte qui soit agréable à Dieu, comme Gilles nous a fait réfléchir ce matin? Et c'est là vraiment tout le cœur de mon message, c'est mais qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire? Alors voilà, à l'époque, il y a les Philistins qui viennent régulièrement opprimer le peuple d'Israël. À l'époque, ils régnaient même dans tout Israël. Hein, ils étaient vraiment incrustés dans tout le territoire. Et puis, je ne sais pas si vous... Avant l'histoire de David et Goliath, il y a le fils de Saül qui s'appelle Jonathan, qui va un peu les botter hors de touche, les remettre hors des frontières du peuple d'Israël, dans le pays qui borde, hein, en fait, le peuple d'Israël, la Philistie, d'accord ? Mais on voit que les Philistins, ils ont une haine envers Israël, ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu des batailles, mais pour eux, ils n'ont pas encore perdu la guerre, donc ils reviennent régulièrement pour reconquérir, en fait, ce qu'ils ont perdu. Et au début du chapitre 17, on lit que les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière, et ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amim. Et Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Donc imaginez un peu le décor. On est dans une vallée, dans le creux d'une vallée, et sur le versant d'une montagne, il y a le peuple d'Israël, et sur l'autre montagne, le versant de l'autre montagne, il y a les Philistins. Et puis, parmi l'armée des Philistins, il y a donc ce Goliath qui va sortir pour aller lancer un défi au peuple d'Israël. Goliath, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu à quel point il est grand. Il fait à peu près 3 mètres de haut. Je ne connais pas la hauteur du plafond de votre salle, c'est plus bas que chez nous, j'estime que c'est à peu près 2 mètres 50. Ben, rajoutez 50 cm et vous avez Goliath. Donc vous voyez que ça paraît rikiki à côté. Hein. Et ce même Goliath, il est vêtu, d'une cuirasse de bronze avec des écailles, un casque de bronze, des jambières en bronze. Et puis il a une lance qu'il a à la main qui fait le diamètre d'une ensoupe de tisserand. Vous ne pouvez pas le prendre, vous, dans votre main, quoi. C'est gros. Son fer de lance pèse plusieurs kilos. Voilà, quand vous êtes en face d'un homme comme ça, c'est possible que vous ayez peur, on ne peut pas vous le reprocher, d'accord ? Surtout que c'est un guerrier, quelqu'un qui est assoiffé de bagarre, de sang, qui veut en découdre avec tout le monde dès qu'il peut. Et il vient lancer un défi à l'armée d'Israël. Et en fait, c'était une pratique courante à cette époque que de dire, plutôt que de faire s'affronter deux armées complètes et d'avoir de grosses pertes d'un côté et de l'autre, eh ben il y a une armée qui propose un défi à l'autre, où on engage deux hommes. Et donc c'est ce que Goliath va faire. Il va dire, envoyez-moi un homme pour se battre avec moi, s'il gagne, nous serons vos esclaves, nous vous serons soumis. Si je gagne, vous serez nos esclaves, vous nous serez soumis. Et qu'est-ce qu'on peut voir au travers de ce discours de Goliath ? Goliath, je vais reprendre ses paroles, hein, à partir du verset 8. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin et vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. » Et en fait, ce que Goliath fait, c'est quand même un peu de la manipulation. Il reconcentre toute l'attention de l'armée d'Israël sur lui. Et ça m'a fait réfléchir dans le sens où, quelquefois, face à nos géants, à nos propres géants de nos propres vies, et quelquefois, on perd l'attention qui nous amène à fixer nos regards sur Jésus. Et on se concentre plus que sur notre ennemi. On ne voit plus que lui. On ne voit plus que ce qui nous fait peur. On ne voit plus que ce qui nous persécute. Mais on ne voit plus celui qui a le contrôle de nos vies. Et en fait, c'est ce que Goliath essaye de faire. Il essaye de déstabiliser l'armée d'Israël, toute une armée à lui seul, en disant, mais regardez-moi. Moi, je suis un champion, et vous êtes des esclaves. La deuxième chose que Goliath fait, c'est qu'il joue sur l'identité, il remet en cause l'identité de l'armée d'Israël. Il leur dit, vous êtes les esclaves de Saül. Ah bon? Vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau roi qui vient d'être élu là? Alors certes, c'est pas encore paru dans les journaux, c'est pas encore passé à TF1 Israël, mais, mais quand même, il y a un nouveau roi qui est là. Mais l'armée, le peuple d'Israël est toujours assujetti à Saül, qui est un peu le roi qui agit selon la chair. Et le diable, aujourd'hui, il fait un peu la même chose avec nous. Il dit, ah bon, t'es chrétien? Tu te dis chrétien? C'est bien. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Tu crois que tu vas me battre parce que tu te dis chrétien? Tu crois que tu peux me vaincre parce que tu te dis appartenir à Dieu? Et puis s'il veut nous titiller jusqu'au bout, il va même nous dire, mais en fait, regarde ta vie, sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu vaux devant Dieu? Est-ce que hier, tu n'as pas encore fait ce péché-là, contre lequel tu luttes depuis des années? Est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir un jour? Finalement, tu es un faiblard. T'es pas un gagnant. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Et vous voyez, ça, c'est la tactique du diable pour nous déstabiliser. Il veut nous amener à capituler devant lui, à renoncer à notre identité en Christ, à ce que nous sommes. Mais, on va voir la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À partir du verset 12, dans le chapitre 17 d'1 Samuel, on commence à nous raconter l'histoire de David. Or, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda nommé Isaïe. Et il avait 8 fils. Et au temps de Saül, Isaïe avait été très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. Quant à David, c'était le plus jeune des 8. Et il faisait le va-et-vient entre le camp de Saül de Bethléem pour y garder les moutons de son père. Il faisait le va-et-vient entre les deux, entre le camp de Saül et l'endroit où il gardait les moutons de son père. Et puis un jour, le papa de David va lui demander de prendre quelques victuailles pour ses frères, de prendre des grains rôtis, des pains, et il lui demande d'aller vite porter ce ravitaillement pour ses frères et de prendre de leurs nouvelles. Tu verras si tes frères se portent bien et tu me rapporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du Chêne face aux Philistins. Alors que fait David? Eh bien, il obéit à son papa. Verset 20, le lendemain de bon matin, David confia ses moutons à quelqu'un pour les garder. Il prit ses provisions et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Quand il arriva au campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant le cri de guerre. Moi, ce qui me frappe ici déjà, c'est justement de voir l'obéissance de David à son père. Eh, c'est le roi d'Israël quand même. Est-ce qu'il doit encore obéir à son papa? Eh bien, en fait, c'est ce que David fait, et il le fait avec une humilité qui est très touchante. David est pleinement dans une attitude d'obéissance où il veut faire simplement la volonté de son père. Et c'est pas énorme ce que son père lui demande, là. C'est juste d'aller prendre des nouvelles de son frère et de ramener de la nourriture à ses frères. Et ça vous rappelle quelqu'un? Un roi qui obéit à son père pour simplement aller. Va prendre des nouvelles de tes frères, c'est-à-dire un jour Dieu a envoyé Jésus pour pas prendre de nos nouvelles puisque Dieu nous connaissait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il a demandé à son fils d'aller parmi les siens. Et alors, que se passe-t-il ensuite? David arrive au camp, il va trouver ses frères, et puis je ne sais pas si à un moment donné on donne ce détail dans la parole de Dieu. Ça fait 40 jours que matin et soir, Goliath lance le même défi au peuple d'Israël. Envoyez-moi un homme pour que je me batte avec lui. Ça fait 80 fois. 80 fois que Israël se fait narguer par un guerrier. Et quand il arrive au camp, David, il entend le défi que Goliath lance à l'armée d'Israël. Et comment est-ce qu'il va réagir ? Il va poser des questions. Parce qu'il y a une promesse qui est donnée à celui qui sera vainqueur de Goliath, à celui qui osera aller se battre et être vainqueur de Goliath. Il y a une promesse qui est donnée. Verset 25, quelqu'un dit, un des soldats de l'armée d'Israël, il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. Waouh ! Dans le contexte actuel, ça peut même faire envie d'aller, d'aller risquer le coup, quoi. Exonérer d'impôts à vie, des grandes richesses, et en plus devenir le gendre du roi, c'est quand même, c'est pas rien. Et David demande aux hommes qui se tiennent autour de lui, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée ? Qu'est donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter les bataillons du Dieu vivant ? Et voyez quelle est la vraie motivation de David. David, ce qu'il veut, c'est pas tellement les récompenses. Ce qu'il veut, c'est faire justice pour son peuple. Lui, il a conscience que son peuple est insulté par un ennemi qui aux yeux de David, est impur et n'a pas le droit d'insulter le peuple de Dieu de la sorte. Il n'a pas le droit qu'on le laisse faire. Et David est pleinement conscient de cet affront qui est lancé au peuple d'Israël. Alors on répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Mais à force de discuter, de poser des questions, c'est marrant, mais il y a ses frères qui sont là dans le camp et qui le voient faire et qui l'entendent, et ça les énerve. Ça énerve notamment Eliab, l'aîné de ses frères, qui va dire à David, « Que viens-tu faire ici ?» Verset 28. « À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe ? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. » Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Jean chapitre 1, verset 11. Dieu envoie Jésus parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu et ils ne l'ont pas accueilli. Waouh ! Incroyable, hein ? Je me dis, mais c'est incroyable comme ce que David vit, Jésus le vit un millénaire plus tard. Et David va se défendre, va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que j'ai plus le droit de parler maintenant ? Il tourna le dos à son frère et alla se renseigner auprès d'un autre soldat, et on lui fit la même réponse que la première fois. Et à force de poser des questions, d'aller de soldat en soldat, s'intéresser au sujet, ça va finir par arriver aux oreilles de Saül, qui est là dans l'armée d'Israël. Et Saül va faire venir David auprès de lui, et il va se dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais tant de tumulte là dans mon armée ? Pourquoi est-ce que tout le monde parle de toi maintenant ? David, verset 32, David dit à Saül, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Moi, ton serviteur. » Et David, c'est le roi d'Israël. Hein. Et là, il se présente à Saül comme étant son serviteur. Incroyable, hein ? Et ça vous rappelle toujours pas quelqu'un ? Un roi serviteur. Jean chapitre 13. Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans Jean 13 ? Il va leur montrer à quel point il aimait ses disciples. En faisant quoi ? En leur lavant les pieds. Exactement. Il va leur laver les pieds. Il va s'humilier devant eux jusqu'à leur laver les pieds. Pour leur montrer à quel point il les aimait. Moi, ton serviteur. Jésus, le roi serviteur. Et David ici, il se propose, il dit « J'irai et je le combattrai ». Waouh ! Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Il a dit aussi dans Jean 10, quand il parle de lui en tant que bon berger, Jean 10, verset 10, il dit que le méchant, le diable, vient pour égorger, voler et détruire. Et c'est exactement ce que veut faire Goliath ici. Il veut égorger, détruire, voler le peuple d'Israël. Mais Jésus dira, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » C'est pas magnifique? Et là, ce que David fait en venant se proposer pour aller combattre ce Philistin, c'est il dit à Saül, « Moi, je veux bien risquer ma vie pour vous, pour aller me battre contre ce Philistin et délivrer, autrement dit, redonner la liberté, redonner la vie au peuple d'Israël. » Est-ce que c'est pas magnifique? Mais Saül, en tant qu'homme de guerre sensé et raisonnable, va lui dire au verset 33, « Mais tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Et David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui. » Je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Et moi, ce qui me frappe aussi dans ce dialogue entre Saül et David, c'est que David, à l'époque où il était berger et il protégeait les troupeaux de son papa, il était prêt à risquer sa vie pour n'importe quelle brebis. D'accord ? C'était pas que la brebis meneuse, que la meilleure du troupeau qui produisait le plus. C'est s'il y avait une brebis qui était enlevée par une bête, par un ennemi, il allait et poursuivait cette bête, cet ennemi, et il l'arrachait de sa gueule jusqu'à ce qu'il la délivre. Et s'il le fallait, il allait jusqu'à tuer cette bête, cet ennemi. Et Jésus, quand il est venu pour nous sauver, il ne fait pas de sélection parmi les humains. Il a soin et il a pitié de chacune des brebis égarées que nous étions et que le monde contient. Chaque brebis est précieuse à ses yeux. Chaque brebis est précieuse à ses yeux. Est-ce qu'on en a encore conscience ? On était tellement précieux aux yeux de Christ qu'il a donné sa vie pour nous. Waouh! Waouh! Et là, David, de la même façon, est prêt à aller risquer sa vie pour délivrer toute personne appartenant au peuple d'Israël. Il ne le fait pas pour Saül, mais il le fait pour restaurer l'honneur de Dieu dans cette histoire qui a été bafouée, qui a été giflée. Et alors, Saül va vouloir prêter main forte à David. Au verset 37, il va abdiquer un peu à la demande de David. Il va dire, bon ben, ok, si vraiment tu veux y aller, alors vas-y et que l'Éternel soit avec toi. Et c'est incroyable de voir la providence de Dieu. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle, le fait que Saül accepte quand même que David aille se battre contre ce Philistin. Est-ce que, parmi vous, il y a quelqu'un de sensé? Si, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un entrait dans cette salle et disait « Je vous emmène tous en captivité » ou alors « Envoyez-moi quelqu'un qui va se battre contre moi » et s'il gagne, vous partez avec moi. Non, l'inverse. S'il gagne, vous restez libre ici. Et s'il perd, vous venez avec moi. Je vous emmène prisonnier. Et admettons qu'il y ait un des deux jeunes hommes, dont je ne connais pas les prénoms là-bas, qui se lève au fond de la salle et qui dise, moi, je vais aller me battre contre cet homme-là qui vient de rentrer, un bonhomme de 2,50 m de haut, là, qui obligé de plier la tête pour rentrer ici, armé jusqu'aux dents. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de sensé parmi vous qui le laisserait aller se battre ?
Ben moi, non.
Hein ? Non, ben voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et pourtant, Saül là, accepte que David aille se battre contre ce Philistin. Mais c'est incroyable. Ça, c'est Dieu qui agit, quoi. Il incline le cœur de Saül. Vous savez, quand Dieu dirige les cœurs selon son gré, il le fait autant pour ceux qui lui obéissent, autant avec ceux qui ne veulent pas lui obéir. Mais il dirige les circonstances toujours pour faire éclater sa gloire. Et que l'Éternel soit avec toi. On a l'impression que... Alors, Saül, il dit, bon, ok, vas-y, mais... Bonne chance, quoi. C'est pas une phrase qui était dans la bouche de Saül de manière ordinaire, quoi. C'est un peu... on sent un peu une note de défaitisme, là, derrière. Mais, pour autant, il le bénit, quand même. Mais il va vouloir l'aider, il va lui faire revêtir sa propre armure. Il va lui faire mettre un casque de bronze, endosser sa cuirasse. Et puis, David prend l'épée de Saül, et puis, un petit gamin de 15 ans, voilà, avec une grosse armure qu'il peut à peine porter... Il essaye de se déplacer avec, mais c'est pas facile. Alors, David va dire à Saül, mais je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. Il se débarrasse de tout. Il prend son bâton à la main, et il s'en va dans le torrent, qui était dans la vallée, qui séparait les deux versants de montagne. Et il choisit 5 bières bien lisses. Vous savez pourquoi 5 ? Alors j'ai entendu parce que Goliath avait des frères. Et il en avait combien des frères ? 4, exactement, c'est vrai. Alors, ça peut être une interprétation de dire que David, il a pris 5 pierres parce qu'il y avait Goliath et ses frères et qu'il se battait contre, symboliquement contre les... Moi, personnellement, je crois plutôt que il prend 5 cailloux parce que s'il en avait pris qu'une, ça aurait été un peu orgueilleux de sa part de dire... Poum, du premier coup, je l'ai. Il n'en prend pas 15 non plus, parce que dans un combat à distance, vous pouvez prendre une fronde et jeter un caillou au loin et atteindre votre ennemi. Surtout que la tribu dont David est issu, c'était des champions du maniement de la fronde, en fait. On voit ça dans le livre de Josué, je crois. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais... vous pouvez pas vous battre à distance éternellement contre un Goliath. Lui, ce qu'il veut, c'est un combat au corps à corps, d'accord ? Il a une lance, mais il a aussi une épée. Et lui, ce qu'il veut, c'est venir sur David et l'écraser comme un moucheron. Donc au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de distance. S'il le loupe une fois, Goliath va se rapprocher. S'il le loupe deux fois, il va se rapprocher encore à la troisième et à la quatrième fois. Et au bout d'un moment, il sera trop près pour pouvoir lui lancer une fronde. Donc moi, je crois que c'est vraiment très pragmatique, en fait, ce que fait David, là. Et il prend pas 15 pierres parce qu'il peut louper un géant une fois, mais pas 15. Bon, je vous fais pas les 15. Vous comprenez ? Alors maintenant, le combat va s'engager entre les deux parties. David et Goliath sont face à face dans cette vallée. Et devant Goliath, il y a un homme qui marche avec son bouclier. Et... Il examine devant lui le jeune homme roux de belle figure et il le regarde avec mépris. Et lui lança, « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ?» Puis il le maudit par ses dieux. On est au verset 43. « Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » À quoi David répondit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » Waouh ! Quelle vérité David est en train de donner à Goliath. Goliath, crache encore au visage de David en lui disant, mais t'es un moins que rien, tu viens à moi. Tu... Mais ce qui me plaît, c'est que finalement, Goliath, il est vexé. Il est touché dans son propre intérieur. Il dit, mais pourquoi on envoie un gamin se battre contre moi ? Goliath s'attendait à avoir un adversaire à sa taille. Il voulait en découdre avec quelqu'un qui pouvait en découdre avec lui. En fait, le candidat idéal dans toute l'armée d'Israël, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez ce passage en tête, mais quand Saül est choisi par Dieu et par le peuple, il est décrit comme les dépassant tous d'une tête. Donc il faisait peut-être pas 3 mètres de haut, mais il dépassait tout Israël d'une tête. À point de vue humain, c'était lui le candidat favori pour aller affronter Goliath. Mais seulement, l'Esprit de l'Éternel n'étant plus avec lui, il a peur, comme toute l'armée d'Israël, d'aller affronter son ennemi. Et c'est David, ce gamin, qui vient au nom de l'Éternel. Il est conscient que la victoire, elle ne dépend pas des moyens humains. Elle ne dépend pas de ce que moi, je peux faire. Elle ne dépend pas de mon expertise dans le maniement de la fronde. Mais elle dépend complètement de Dieu. Ça, c'est magnifique. On voit cette confiance que David a en son Dieu pour aller affronter son ennemi. Et aussi, le but de David, là, c'est de faire éclater la gloire de Dieu aux yeux de tout Israël et aux yeux des Philistins, puisqu'il dit que toute la terre saura que... Il y avait juste l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Toute la terre, les deux verront que Israël a un Dieu, et ils verront que ce Dieu délivre dans n'importe quelle circonstance. Alors le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. Donc les deux marchent l'un contre l'autre. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Durée de l'action, 1 minute. C'est presque frustrant de voir un combat si court qui oppose un guerrier si sûr de lui à un jeune homme qui était sûr de lui aussi, mais qui ne comptait pas sur les mêmes attributs que son ami. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des extraits de films de cet épisode où Goliath et David s'affrontent, mais c'est rigolo, quoi, parce que on voit Goliath qui lance une lance de loin, et puis David qui l'esquive en faisant un triple saut périlleux arrière avec toutes sortes d'acrobaties, de gymnastique, et puis bien sûr il faut vendre, hein, mais en fait l'action là, c'est David ne tergiverse pas avec son ennemi. Il fait ce qu'il sait faire, il prend une fronde, il prend un caillou, il prend sa fronde, il la lance et il abat son ennemi. Ne jouons pas avec nos adversaires, avec nos tentations, avec notre ennemi. Allons droit au but. Surtout si Dieu nous donne une solution claire et évidente, on ne doit pas chercher à faire du spectacle, mais allons droit au but dans nos combats contre nos géants. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Tiens, c'est marrant. C'était pas tout à fait ce qu'avait promis Goliath au début. Vous voyez comme le diable peut être menteur. Si votre héros gagne, nous vous serons soumis, nous vous serons vos esclaves. Et parle. Sitôt mort, les Philistins prennent la fuite devant tout Israël. Et que font les soldats alors d'Israël et de Juda? Ils s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Shaarim jusqu'à Gat et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Lorsque Saül avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je n'en sais rien. » Alors, ordonna Saül, informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait encore en main la tête du Philistin. Quand Saül lui demanda « De qui es-tu le fils, mon garçon ?» David lui répondit « Je suis le fils de ton serviteur, Isaïe de Bethléem. » Est-ce que ce dernier récit entre Saül, Abner et David ne vous rappelle pas aussi une parole, un passage encore dans l'évangile de Jean? Jean chapitre 14. Jésus parle avec ses disciples et c'est Philippe, un des disciples, qui parle avec lui. Jésus lui dit « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Et Philippe intervint « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Ce qui est rigolo dans l'histoire de Saül et David, c'est que ce n'est pas la première fois que Saül et David se rencontrent ici. David avait été appelé déjà auprès de Saül pour, vous savez quoi faire ? Quand Saül était assailli par un mauvais esprit qui avait été envoyé par l'Éternel pour un peu remplacer l'esprit de l'Éternel qui était sur lui à l'époque où il régnait, Saül entrait dans des grosses crises. Et pour le calmer, on a voulu chercher quelqu'un qui joue de la lyre, et c'était David qui avait été choisi. Et non seulement ça, mais en plus, David était embauché comme l'écuyer, le porteur d'armes de Saül. Et c'est fou, en fait, de se rendre compte que Saül, ici, ne reconnaît pas David avec qui il a passé plein de temps, en fait. C'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Comment est-ce que cette histoire nous encourage aujourd'hui? Avec tout ce qu'on a vu ensemble, levez la main si vous êtes d'accord de dire que David préfigure Christ dans toute cette histoire. Qui est d'accord de dire David préfigure Christ dans l'histoire de David et Goliath? Ok? Donc on est à peu près tous d'accord, je pense. Alors si vous êtes d'accord de dire que David préfigure Christ dans cette histoire, vous devez avoir l'humilité de vous considérer comme un simple soldat de l'armée d'Israël. C'est pas faux de dire qu'on doit être comme David pour affronter nos géants, affronter nos peurs, affronter nos tentations. Mais on doit le comprendre de la bonne façon. Le héros, il est déjà venu. C'est Jésus-Christ. Et ce héros, il a déjà vaincu l'ennemi. Il a déjà vaincu la mort, le péché, Satan. Et ce héros nous a dit « Vous connaîtrez des persécutions si vous me suivez. » On est encore dans l'évangile de Jean, chapitre 16. « Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » C'est quoi notre part? C'est quoi notre part? Eh bien, en fait, c'est un peu cette question que Saül pose à la fin à Abner. Mais de qui est le fils? Et David vient et dit « Mais je suis le fils de ton serviteur. » Le fils est serviteur comme le père est serviteur. C'est juste incroyable de reconsidérer en fait cette relation de Dieu et de Jésus qui portent le même ADN finalement. Et qui viennent auprès des hommes, auprès des leurs pour se révéler. Et pour nous montrer que c'est parce que lui a eu la victoire sur le seul véritable ennemi qu'en lui, nous pouvons avoir la victoire. Mais notre rôle à nous, c'est simplement de chercher à le connaître. Nous devons faire tous nos efforts pour connaître Jésus. Et bien sûr, on peut dire qu'on doit imiter David dans cette histoire, mais faisons-le en nous mettant à la bonne place. Si vous connaissez David, alors le caractère de David déteindra sur vous et vous chercherez à développer une attitude, une façon de vous conduire qui sera semblable à la sienne. Si vous connaissez Christ aujourd'hui, si vous cherchez à toujours plus le connaître, sa vie grandira en vous et vous aidera à développer une marche, une attitude où vous saurez comment vous conduire avec l'assistance de son esprit au moment voulu dans des circonstances qui peuvent être parfois compliquées. Alors, je termine simplement là-dessus, cherchons simplement à connaître ce Dieu qui est venu vers nous et qui connaît nos combats et en qui nous avons déjà la victoire et en qui nous pourrons avoir la victoire sur toute chose. Amen.